VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mardi 24 janvier 2017, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Arnold Butson. Tout d'abord les titres.
Gambie, on ignore toujours la date du retour du président Adama Barrow à Banjul.
Étienne Tshisekedi, l'opposant historique congolais, quitte Kinshasa aujourd'hui pour un contrôle médical en Belgique.
Au Burundi, plus de 300 prisonniers, dont 58 militants du parti de l'opposant en exil Alexis Nduije, ont été libérés hier à Bujumbura.
Paul Biya crée une commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun, une des revendications des syndicats en zone anglophone.
Le président Donald Trump a signé un décret mettant fin à la participation des États-Unis au traité de libre-échange transpacifique.
Et ne manquez pas notre journal de la CAN qui se poursuit au Gabon ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Une ancienne ministre du régime de Yahya Jammeh a été nommée lundi vice-présidente de la Gambie par le nouveau président du pays. Adama Barrow est lui-même encore au Sénégal voisin depuis le 15 janvier et on ignore toujours la date de son retour. Jean-Roger Bion.
Malgré le départ en exil de Yahya Jammeh samedi soir, qui a mis fin à 6 semaines d'une crise provoquée par son refus d'accepter les résultats de la présidentielle, la date du retour en Gambie du nouveau chef de l'État n'était toujours pas connue lundi. Mais M. Barrow a commencé les consultations pour désigner son équipe et a nommé à la vice-présidence une responsable de sa coalition, Fatoumata Diallo Tambajang, a annoncé lundi son porte-parole Ali Fassala à la presse à Banjul. Militante des droits des femmes ayant notamment travaillé pour l'ONU, Mme Tambajang a été ministre de la Santé durant la présidence de Yahya Jammeh de 1994 à 2017. Elle est une des responsables de la coalition qui a soutenu la candidature d'Adama Barrow, élu le 1er décembre. Décembre dernier, Fatoumata Diallo Tambajang succède à une autre femme, Aissatou Ndiaye Saïdi, qui était vice-présidente depuis 1997. Aucun calendrier n'était encore disponible sur les prochaines nominations, alors que selon le conseiller de M. Barrow, Maï Fati, les conditions de sécurité sont encore insuffisantes pour son retour.
En République démocratique du Congo, l'opposant historique Étienne Tshisekedi doit quitter Kinshasa aujourd'hui pour Bruxelles, alors que son parti négocie avec la majorité présidentielle un partage du pouvoir. Son déplacement a été annoncé par son parti, l'UDPS, dans la nuit de lundi à mardi.
Et puis deux médias congolais d'opposition dont le signal avait été coupé depuis plus d'un mois ont pu émettre de nouveau lundi, a dit à l'AFP leur directeur Stéphane Kitutu. Il s'agit de Radio Liberté et de Canal Congo Télévision, propriété de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui détenu à La Haye après avoir été condamné par la Cour pénale internationale.
Au Burundi, plus de 300 prisonniers, dont 58 militants du parti d'opposition, le Mouvement pour la solidarité et la démocratie d'Alexis Nduhije, aujourd'hui en exil, ont été libéré hier de la principale prison de Mpimba à Bujumbura par grâce présidentielle. Au total, 2500 prisonniers sont concernés. Reportage à Bujumbura de Christophe Kourounziza.
La joie se lisait sur les filles, femmes et jeunes hommes qui venaient de passer presque 2 ans dans la principale prison de Bujumbura à Mpimba, dans les quartiers de Musaga au sud de la capitale. Certains avaient été arrêtés le 8 mars 2014 alors qu'ils étaient en réunion dans leur permanence nationale. Ce jeune homme, surnommé Moto, est parmi les 300 personnes libérées. Il ne cache pas sa joie, mais demande que la grâce présidentielle s'étende à d'autres prisonniers qui sont plus de 10 000 dans les différentes geôles du Burundi.
Je suis très content de la grâce présidentielle qui vient de nous libérer, de nous pardonner. Nous étions innocents. Nous sommes très contents. Mais nous avons des frères qui ont été incarcérés pendant les manifestations d'avril 2015. On les a traités de rebelles qui ont attaqué des camps alors que ce n'est pas vrai.
13 prisons du Burundi qui ont une capacité d'accueil de plus de 4 000 détenus contenaient l'année 2016 une population pénitentiaire de presque 10 000 personnes, soit plus de la moitié. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Au Cameroun, le président Paul Biya a signé hier soir un décret portant création d'une commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme dans le pays. Principal objectif, faire du français et de l'anglais deux langues égales au Cameroun dans les administrations et services publics et privés du pays.
La grogne des fonctionnaires ivoiriens a continué malgré l'annonce des dirigeants syndicaux qui ont invité à la reprise ce lundi. Des mouvements sociaux se sont déroulés dans plusieurs villes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, cette semaine est la première du président Donald Trump. De l'immigration à l'énergie en passant par la diplomatie, le président multiplie décrets et initiatives. Anastasie Tudiech.
La Maison-Blanche a réaffirmé hier que les immigrés sans papier ayant un casier judiciaire seraient les premiers visés par les expulsions promises par le nouveau président Donald Trump. Hier également, Sean Spicer, le porte-parole de la Maison-Blanche, a affirmé que les États-Unis sont ouverts à l'idée de mener des opérations militaires conjointes avec la Russie contre les djihadistes du groupe État islamique en Syrie. Donald Trump a par ailleurs reçu 12 chefs d'entreprise à la Maison-Blanche, leur promettant des baisses massives d'impôts et une réduction de 75% de la réglementation, tout en assurant que la sécurité des employés et la protection de l'environnement seraient garanties, sans préciser comment. Le président a également signé un décret mettant fin à la participation des États-Unis au traité de libre-échange transpacifique, négocié pendant des années par l'administration Obama et vu comme un contrepoids à l'influence grandissante de la Chine. Le traité avait été signé en 2015, mais n'était pas encore entré en vigueur.
Le Sénat américain a par ailleurs continué à entériner les choix du président Trump pour des postes clés de son administration. La nomination du député républicain Mike Pompeo à la tête de la CIA a été approuvée hier soir à une majorité écrasante, 66 à 32. Celle de l'ancien PDG d'ExxonMobil, Rex Tillerson, au département d'État, devrait suivre bientôt. Avait été approuvée auparavant John Mattis au Pentagone et John Kelly au département de la sécurité intérieure.
Et tout de suite, le journal de la CAN avec Nicolas Pinault sur VOA Afrique.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Le verdict a été rendu hier dans le groupe B et il a été sans appel pour les Algériens qui quittent la compétition par la petite porte. Le digne représentant africain au Mondial 2014, armé d'un Mahrez meilleur joueur africain, n'a pas réussi à renverser la vapeur hier à Franceville. Match nul de partout contre le Sénégal déjà qualifié. Amdinsi a suivi le match hier pour VOA Afrique. Voici son compte-rendu.
Le miracle n'a pas eu lieu. L'Algérie qui était en ballotage défavorable dès les quarts de finale de la CAN a été éliminée. En effet, les Fenech devaient non seulement s'imposer mais aussi espérer une défaite des Aigles de Carthage face au Zimbabwe à Libreville. Mais cela n'a pas été le cas car l'Algérie s'est contentée de match nul face à une équipe du Sénégal bis sur le score de 2 buts partout alors que la Tunisie s'est imposée devant le Zimbabwe sur le score de 4 buts à 2. Pourtant, les Verts ont joué leur chance à fond en ouvrant le score à la 10e minute par l'intermédiaire de Slimani. Mais le Sénégal a réussi à remettre les pendules à l'heure à la 44e minute grâce à Pape. Les deux équipes vont rejoindre les Verts sur ce score d'égalité. À la reprise, les Fenech vont reprendre l'avantage à la 51e sur un autre but signé Slimani qui a réalisé un doublé. Réponse du berger à la bergère avec Moussa Sow qui égalise deux minutes plus tard, c'est-à-dire la 53e. Le ballon d'or africain Riyad Mahrez et ses partenaires ont tout fait pour forcer le destin sans succès car le score restera inchangé jusqu'à la fin du match. Les Algériens qui faisaient partie des favoris sortent ainsi par la petite porte car cette CAN 2017 restera comme un échec pour les Fenech. Amédine Sy, Franceville, VOA Afrique.
La Tunisie accompagnera le Sénégal en quart de finale. Les Aigles de Carthage n'ont pas fait de détail hier à Libreville, dans un stade de l'amitié désert. Victoire convaincante, 4-2 face au Zimbabwe qui n'a pas démérité. Reportage de Timothée Donangmaï, envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon.
Avec les quarts de finale en jeu, les Aigles de Carthage n'ont pas perdu de temps. 4 buts en première mi-temps, notamment par Sliti Naïm et Youssef Msakni, à la grande satisfaction de leur coach Henri Kasperzak.
On a surpris certainement l'équipe zimbabwéenne par notre comportement, surtout en première mi-temps, où on était bien en place dans la récupération du ballon. On les contrait plusieurs fois et puis on a eu la chance aussi à marquer les buts.
Pour sa part, le coach zimbabwéen Calisto Pasuwa met l'élimination des Warriors sur le compte de l'inexpérience.
Ce que j'ai constaté, c'est déjà que nous avons beaucoup de potentiel et que nous devons également mettre beaucoup l'accent sur la préparation. Ce sont des sautes de concentration qui ont
amené la défaite, surtout au niveau de la défense. Nous avons également besoin de travailler beaucoup plus sur la cohésion et la possession de balles.
Les Tunisiens avancent donc et affronteront le Cameroun en quart de finale. Timothée Donagmaï, Libreville, VOA Afrique.
On connaît désormais l'affiche des deux premiers quarts de finale, Burkina Faso, Tunisie et Sénégal-Cameroun. On rappelle que le Gabon a quitté la compétition dimanche. Trois petits matchs et puis s'en vont. Les Panthères pourront nourrir de gros regrets. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin-Goué.
La première sensation de la CAN nous vient de la poule A, à Libreville, où les Lions indomptables du Cameroun viennent d'éliminer le pays organisateur, le Gabon, dans un match d'une intensité passionnelle particulière. Le Gabon, qui se devait de gagner pour poursuivre son aventure, a buté sur une équipe camerounaise jamais aussi dangereuse que lorsqu'elle évolue dans un contexte hostile. La stupeur et le désarroi qu'accompagnent cette défaite n'ont d'égal que l'espoir qui a animé le nombreux public pour une fois acquis à l'équipe nationale depuis le début de la compétition. Eut égard à la détermination du monde du football gabonais à chacune des sorties de la sélection contre le grand voisin camerounais. Après un match engagé et intense, que le Gabon a bien failli enlever dans le temps additionnel, la sentence est tombée. Comme en 1976, 82 et 94, le pays organisateur sort dès la phase des poules, soulevant le problème connexe de la fréquentation des stades pour la suite de la compétition. Au passage, une tête de série est sortie et deux autres sont en sursis. La fête prend une nouvelle dimension. À demain.
Place au groupe C. Ce mardi, Aoyem, le champion en titre ivoirien, joue sa qualification face au Maroc et les Ivoiriens qui ont impérativement besoin d'une victoire. Les deux équipes n'ont pas encore brillé dans cette compétition, peut-être sur le dernier match. Écoutons d'abord le sélectionneur des éléphants, Michel Dussuyer.
Comme j'ai dit aux joueurs, on joue un huitième de finale. On est tous conscients que c'est un match couperet, comme les matchs qui vont suivre après derrière. Ce sont des matchs couperets, on est conscient de ça. Je pense qu'on a aussi du répondant, on a des qualités à faire valoir. C'est vrai qu'on a démarré doucement dans ce tournoi. J'ai des signes positifs parce qu'on est monté en puissance au fur et à mesure du temps de jeu. Donc il faut qu'on s'appuie sur nos forces avec notre mental, en ajoutant le côté mental, parce que demain ce sera vraiment déterminant.
Écoutons à présent l'analyse d'Hervé Renard, le sélectionneur du Maroc, qui était en 2015 le sélectionneur des éléphants champions d'Afrique.
C'est l'état d'esprit du groupe qui est associé à la qualité des joueurs, bien sûr, fait qu'on peut aller très loin dans une compétition. L'état d'esprit, ça regroupe solidarité, ne jamais baisser les bras lorsque vous avez des moments un petit peu plus difficiles. C'est la clé de la réussite, parce que dans une CAN, il y a toujours des moments un peu plus difficiles que d'autres. On le voit pour toutes les équipes, donc il faut être soudé. Les personnes qui se dispersent en pensant individuellement, il faut toujours avoir une pensée collective. Enfin, c'est ma façon de voir comment doit vivre un groupe pendant une compétition.
Autre affiche de ce groupe, à Port-Gentil, la République démocratique du Congo, leader avec 4 points, affronte le Togo, dernier avec 1 point. Un nul suffit au Léopard pour se qualifier. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre partenaire.
Alors qu'il leur suffit d'un simple nul pour valider leur qualification pour les quarts de finale, les Léopards veulent absolument gagner le match de ce mardi contre les Éperviers du Togo afin d'éviter toute mauvaise surprise. Florent Ibengue.
C'était un match décisif. On sait qu'avec un nul, on est qualifié, mais on ne va pas penser à ça. On va rentrer sur le terrain avec l'envie de gagner.
Vous avez vu le Togo par deux fois. Comment battre cette équipe?
En jouant. Il faut qu'on joue, qu'on reste nous-mêmes solides derrière, créatif au milieu et puis décidé et réaliste devant.
Les Togolais, eux, après un nul et une défaite, n'ont pas une autre alternative que de s'imposer pour passer. Claude Leroy l'a dit ce lundi à Port-Gentil.
C'est notre dernière chance. On sait que la seule façon de nous qualifier pour les quarts de finale, c'est de gagner contre la RDC. Maintenant, on sait que la qualité de cette équipe, sa puissance athlétique, ce qu'ils ont montré contre la Côte d'Ivoire, mais bon, on sait très bien que la Kananga, Mbokane, la vitesse de Goubélé, je crois qu'on a complètement décrypté cette équipe, on la connaît bien, on va essayer de brouiller les cartes et de faire un gros match.
Port-Gentil, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Voilà, c'est la fin de ce journal de la CAN. Nouveau rendez-vous ce soir sur VOA Afrique. En attendant, retrouvez-nous sur notre page Facebook et notre site voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au micro, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Et nous commençons avec la Minute Éco d'Ilidiko.
La Guinée-Bissau veut rejoindre l'OPEP. Malabo en a fait l'annonce ce lundi par la voix de son ministre de l'Énergie. Si la Guinée équatoriale voit sa candidature retenue, elle deviendrait le sixième pays africain à intégrer l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. La Guinée équatoriale est le troisième producteur de pétrole en Afrique. La Banque islamique de développement effectue actuellement une tournée ouest-africaine riche en accords financiers. Son vice-président, Mansour Moutar, débute aujourd'hui sa visite au Sénégal et en Guinée, où il prévoit de signer des accords de financement pour un total d'environ 300 millions de dollars. À Dakar, la Banque islamique de développement et le Sénégal ont signé hier 4 accords d'une valeur de 92 millions de dollars. Le gouvernement égyptien a autorisé l'armée à fonder une compagnie pharmaceutique alors que les prix des médicaments se sont envolés ces derniers mois et que certains viennent à manquer. Le 12 janvier, le ministre de la Santé, Ahmed Emad, avait d'ailleurs annoncé une augmentation de 30 à 50% des prix d'un quart des médicaments vendus en Égypte.
Maintenant, la Gambie, le départ de Yahya Jammeh de son pays est un bon coup diplomatique et sécuritaire pour le Sénégal. C'est en tout cas l'avis du journaliste et analyste sénégalais Madjambal Diagne. Mais il n'exclut pas des remous dans le sud du Sénégal avec les indépendantistes casamançais qui viennent de perdre un de leurs soutiens. Abdourahmane Dia a joint à Dakar Madjambal Diagne.
Le président Macky Sall aujourd'hui doit pouvoir se frotter les mains. Tout le monde sait que la situation des rapports entre le Sénégal et la Gambie a été très difficile. Quelque part, la Gambie s'est toujours distinguée ou illustrée par des soutiens au MFDC et en servant de base de repli au MFDC. Mais aussi, on a pu voir, par exemple, en 2010, avec la fameuse histoire des armes iraniennes qui avaient été livrées au MFDC et qui avaient été utilisées un peu sur le champ de bataille contre l'armée sénégalaise.
Le fait que Yahya Jammeh s'exile en Guinée équatoriale et non en Guinée-Conakry ou même en Mauritanie, deux pays qui ont été impliqués dans la médiation, vous pensez que c'est, le Sénégal a pu jouer un rôle dans cette décision?
Je ne le pense pas. Je pense que Yahya Jammeh a choisi un endroit sûr pour lui. Parce que la Mauritanie est un pays qui ne me semble pas très sûr pour lui, dans la mesure où la Mauritanie va vers des mutations politiques importantes, et ces mutations politiques peuvent demain induire, disons, la remise en cause d'un statut qui serait accordé à Yahya Jammeh, par exemple. La Guinée aussi, c'est un pays qui va très prochainement vers des mutations politiques. Et puis aussi, je pense que les assurances que Yahya Jammeh devrait pouvoir obtenir en Guinée équatoriale, vu la nature du régime de Guinée équatoriale, vu aussi les rapports qu'il a eu avec la Guinée équatoriale, ils ont certainement des relations très fortes qui autoriseraient Yahya Jammeh à se sentir plus en sécurité en Guinée équatoriale qu'ailleurs.
Et pour ce qui est de la crise casamançaise, le départ de Yahya Jammeh, qu'est-ce que cela fait?
Le départ de Yahya Jammeh devrait induire indubitablement une perte de soutien politique que la Gambie assurait au MFDC. Je pense que de ce côté-là, c'est une certitude. Déjà, le président Adama Barrow a annoncé le ton en disant qu'il ne soutiendra aucun groupe rebelle contre le Sénégal.
Mais justement, M. Diagne, on a entendu le représentant du MFDC à Paris lancer un avertissement au Sénégal pour qu'il n'attaque pas la Gambie. Ça, c'était avant l'intervention de la CEDEAO. Vous ne pensez pas que cela peut raviver un peu la crise au sud du Sénégal?
C'est de bonne guerre que le MFDC reprenne du poil de la bête parce que son soutien important est parti et que donc a été chassé du pouvoir. Ils auront certainement besoin de donner l'impression qu'il existe encore ou bien peut-être pouvoir faire des prétentions. Mais je crois qu'il appartiendra à l'État du Sénégal d'apporter la réponse adéquate.
Le journaliste et analyste sénégalais Madjambal Diagne.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Niger, les travailleurs des collectivités territoriales de la capitale Niamey ont entamé hier une grève de 5 jours. Ils entendent par ce débrayage exiger le paiement de 6 mois d'arriérés de salaire. Le mouvement a commencé par un sit-in à l'hôtel de ville de Niamey. Reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Les grévistes sont en majorité des auxiliaires, comme Moussa Adamou, manœuvre au cimetière chrétien de Niamey.
En temps normal, on fait les fosses, on fait l'enterrement, mais c'est nous qui faisons tout. On ne demande rien. Mais maintenant, là, comme nous, on a refusé de nous payer, nous, on se retire. On ne va rien faire là-bas. Tout celui qui veut enterrer sa personne, c'est à lui maintenant de faire tout. Catégoriquement, on se retire.
S'ils ne sont pas payés à la fin janvier, ils passeront ainsi leur septième mois sans salaire. Les travailleurs des cinq arrondissements communaux et de la mairie centrale de Niamey sont à leur énième mouvement de grève. Ali Gatti est le coordonnateur des cinq syndicats des travailleurs des municipalités de la capitale.
Le problème, là, ils ont commencé depuis en 2015. Il faut partir en grève pour percer un mois de salaire. Deux, trois mois d'arriéré, un mois de salaire. Mais maintenant, depuis en juin qu'ils nous ont donné nos salaires jusqu'à présent, ils ne nous ont rien donné. Et le pire des choses, ils ne nous appellent même pas pour négocier, pour chercher une issue.
Alors, ce matin, on voit que même l'entrée principale de la mairie, vous l'avez bloquée. Qu'est-ce que cela signifie?
Ça signifie que tout le monde en a marre maintenant. Au début, moi, les gens ne venaient pas, les gens venaient en contre-route. Mais maintenant, tout le monde en a marre. Même les agents qui ne venaient pas, maintenant, tout le monde, ils sont décidés pour venir. Tout ce qui va se passer n'a qu'à se passer. Tout le monde est prêt. Parce que pour la mort, on n'a pas peur parce qu'on est déjà mort. À la maison, on est des femmes. Devant nos femmes, nous aussi, nous sommes des femmes parce qu'un responsable d'une maison qui ne donne pas les frais de Kondamali aussi, il devient une femme.
Puisque leur autorité hiérarchique directe ne semble pas avoir de solution, certains sollicitent une implication à un niveau beaucoup plus élevé.
On voulait rappeler au président de la République, Mohamed Issoufou, qu'il pense à nous. Pitié, 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 pitié. 7 mois sans salaire, ce n'est pas 7 jours.
Cette situation-là est très difficile, est très, très difficile. Si vraiment le président peut intervenir dans cette histoire-là, il n'a qu'à intervenir. Parce qu'on ne peut pas vivre et travailler pour l'État pendant 7 mois sans avoir le salaire.
Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Burundi, des représentants de l'opposition politique, de la société civile et de la diaspora qui ont fui leur pays se sont réunis ce week-end en Belgique pour arrêter une stratégie commune contre le pouvoir burundais. Ils étaient une trentaine, dont les principales figures politiques regroupées au sein du CNARED. Eric Manirakiza a joint en Belgique un des participants, le défenseur des droits de l'homme, Pierre Claver Monimpa. Il s'exprime d'abord sur la libération hier d'un groupe de 300 prisonniers au Burundi dans le cadre d'une grâce présidentielle.
Bon, en fait, nous avons bien accueilli cette mesure de libérer les prisonniers parce que les prisons étaient trop engorgées. Et d'après la ministre de la Justice, on va libérer, je crois, plus ou moins 2000 prisonniers. Et alors, s'ils continuent comme ça, pour nous, ça serait une bonne chose. Mais aussi, nous avons peur de l'insécurité. Je viens d'apprendre qu'il y a un jeune qui vient d'être tué à Moussaga. Il paraîtrait qu'il serait parmi ceux qui ont été relaxés aujourd'hui. Si ça serait le cas, ça serait très grave.
Vous avez participé dans une rencontre avec la plateforme de l'opposition. Sur quoi avez-vous abouti?
Bon, en fait, la société civile et le diaspora avec les politiciens. Et nous sommes réunis ensemble parce que nous sommes tous des Burundais. Et juste pour voir ensemble, faire analyser ensemble les problèmes qui minent le pays depuis avril 2014 jusqu'à aujourd'hui. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de morts et que les gens continuent à mourir. Et maintenant, on parle des gens qui meurent à cause de la famine. On parle des gens qui meurent à cause de manque de médicaments. Tout ça, ce sont des points cruciaux qu'on devait analyser et voir ce que nous pouvons faire en tant que Burundais. Aussi, on devrait voir où arrive et où est-ce que nous en sommes avec notre lutte parce que nous avions demandé à ce que les accords d'Arusha et la Constitution soit respectée.
Oui, vous avez donc évalué la lutte. Est-ce qu'elle a fait des progrès?
Vous savez, la lutte, c'est un problème qui est difficile à trouver solution. Mais je dirais qu'il n'y a pas de progrès parce que notre souhait, surtout à moi en tant que défenseur des droits de l'homme, c'est qu'il y ait d'abord le respect et toutes les personnes ont droit à la vie. Alors, si des gens continuent à mourir, même si c'est une personne qui est assassinée, moi je dirais qu'il n'y a pas de progrès.
Le défenseur burundais des droits de l'homme, Pierre Claver Monimpa, joint à Bruxelles.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Au Cameroun, ce lundi devait marquer la reprise des cours dans les établissements secondaires et universitaires des deux régions anglophones du Cameroun. Elle coïncide avec la mise en garde lancée à trois chaînes de télévision privées et à deux organes de la presse écrite pour apologie de fédéralisme. Un communiqué a été rendu public à ce sujet par le Conseil national de la communication, l'organe régulateur des médias au Cameroun, géré par le gouvernement. Les journalistes camerounais y voient une entrave à l'exercice de leur métier. Notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Jules Ntap, a rencontré quelques-uns d'entre eux.
Le Conseil national de la communication manifeste une volonté d'implémenter la censure. La réaction est de Denis Kwebo, président du syndicat national des journalistes camerounais, après la mise en garde de certains médias contre l'apologie de la sécession ou du fédéralisme. Parmi les médias indexés par l'organe régulateur des médias au Cameroun, figure la chaîne de télévision privée Canal 2 International. Pour son directeur général adjoint en charge de l'information, Jean-Bruno Tanier, la sortie du Conseil national de la communication n'est pas loin d'une provocation.
Pour l'instant, nous n'avons vraiment pas de reproche à nous faire sur la manière dont nous avons traité jusqu'à présent le problème entre guillemets anglophone. Si le Conseil national de la communication estime simplement que Canal 2 ne doit même pas en parler, je pense qu'il s'agirait là d'une provocation à laquelle nous, malheureusement, ne céderions pas.
Entre suspension temporaire et interdiction définitive d'activité, les médias camerounais semblent désormais fonctionner avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Une entrave grave à la pratique du métier, pense Fréjus Tchouta, journaliste au quotidien La Nouvelle Expression, dont le groupe est incriminé par le Conseil national de la communication camerounais.
Si le Conseil de la communication a considéré qu'on fait de l'apologie, c'est peut-être parce qu'on est allé un peu plus loin en montrant qu'effectivement les consignes du consortium et des autres mouvements, le SCNC, étaient effectivement respectées. C'est ce que nous avons fait. Parce que la presse est libre de pouvoir dire ce qu'elle voit et ce qu'elle pense d'une situation donnée.
Du coup, dans certaines rédactions, l'idée d'une couverture partielle de la situation dans les régions anglophones du Cameroun semble imposée par le gouvernement aux médias. Armand Mouko anime une émission de débat politique à Radio Tiemini Sianto, une chaîne privée à Yaoundé.
Le CNC est dans une posture de chercher à tout prix à ce que s'il y a une façon d'équilibrer, il faut qu'on fasse peut-être du 75-25%. On ne devrait pas beaucoup relayer les positions du consortium qui demande le fédéralisme ou encore du SCNC qui demande la sécession complète.
En coulisses, un journaliste affirme avoir déjà subi des pressions après publication d'un article jugé tendancieux par la haute administration judiciaire du Cameroun en rapport avec les revendications des avocats anglophones. Le Conseil national de la communication placé sous la tutelle du Premier ministre dit pour sa part vouloir sauvegarder l'intégrité territoriale du Cameroun menacée par les médias présentant un caractère anticonstitutionnel. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le monde. l'émission d'aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.